table ronde qui nous invite à partir à la rencontre des elfes avec un folkloriste et romancier, Édouard Brazet, je vous les présente tous, hein, et trois auteurs qui ont chacun à leur manière proposé leur vision de ces personnages typiques de la fantasy, donc entre peur et fascination, c'est le sous-titre avec quand même plus de fascination que de peur, avouons-le, dans l'ensemble. Alors, honneur aux grandes dames, hein, surtout sur un tel sujet. Hélène Kushner, malheureusement pour nous, les amateurs de fantasy, peu publié, hein, et seuls deux de ses ouvrages, je crois, sont traduits en français.
Mais ce sont les meilleurs.
Mais ce sont deux chef-d'œuvre, ça, totalement conseillé. Donc, Swords Point, à la pointe de l'épée, qui est un roman de 87 traduit en 2008 seulement. Et surtout, pour ce qui nous occupe, Thomas the Rhymer, qui a reçu le Mythopoetic Award, le World Fantasy Award, donc c'est vraiment une référence, et qui a été traduit en 2000 dans la bibliothèque elfique, justement, de Pierre Dubois et Michel Lebris, hein, chez Hoboken. C'est une recréation d'une légende celte existante, hein, celle de Thomas le Rhymer, qui avait été notamment présenté par Walter Scott dans sa démonologie. Et Hélène Kushner en fait le récit d'une vie selon quatre points de vue. Et c'est l'histoire donc d'un poète, d'un créateur qui part 7 ans auprès de la reine des elfes dont il devient l'amant. Et c'est l'histoire des mésaventures de sa voix. D'abord, c'est sa voix est un don créateur. Ensuite, il la perd parce qu'il fait un espèce de vœu de silence, enfin un sort de silence. Et puis après, il revient avec une malédiction de la sincérité. Il devient prophète. Hein. Il dit forcément vrai. Donc voilà, une première lecture conseillée. Raphaël Albert, lui vient de sortir son premier roman. Ah oui, avant le déluge, c'est le deuxième. Donc le deuxième est sorti.
C'est ça.
D'accord. Pourquoi est-ce qu'on pourquoi ne me l'a-t-on pas encore envoyé? Donc, il est en train d'écrire, hein, Les extraordinaires et fantastiques enquêtes de Silvo Sylvain, détective privé. Et désormais, il y a déjà 2 volumes de cette série parue chez Mnemos. Le premier s'appelait Rue Farfadet et on l'a fait figurer dans notre sélection pour le prix Imaginal du roman français cette année. Donc c'est une fantaisie urbaine, donc je ne parle que du premier volume, hein. Vous aurez compris que je n'ai pas lu le deuxième. Ça se passe dans un Paname, hein, qui est donc un Paris de la Belle Époque où cohabitent un certain nombre de races merveilleuses, et le héros, Silvo Sylvain, c'est un héros détective séduisant, désabusé, hein, vraiment le détective typique, sauf que c'est un elfe, hein, et un elfe un peu déraciné, littéralement, dans ce rôle-là. Je l'ai fait par ordre alphabétique ou par... Alors, Édouard Brazet est un des plus grands spécialistes français des créatures légendaires, hein, et à la fois du folklore, hein, et de l'ésotérisme. Il est l'auteur d'une grosse cinquantaine d'ouvrages, beaucoup d'ouvrages d'introduction, de présentation, de dictionnaire, etc., consacrés à ces différentes traditions, hein, contes merveilleux, folklore, tradition ésotérique. Sur les elfes en particulier, donc il y a Fées et elfes, hein, qui est paru chez Pygmalion dans toute une série d'ouvrages. Il y a Gnomes et lutins, à chaque fois ça va par deux. Et plus récemment dans la collection Auprès au Clair, hein, dont il dirige la collection Fantasy, une série de petits ouvrages très joliment illustrés. Donc il y a le petit livre des elfes. Et par ailleurs, c'est aussi un auteur de fiction et notamment une récente trilogie romanesque qui revisite la saga des Nibelungen. Et enfin, donc Jean-Philippe Jaworski, qui est un voisin nancéen et donc habitué des imaginales. Il a d'abord écrit plusieurs jeux de rôle, dont le fameux, enfin, le reconnu dans le, par les amateurs, Tédéum pour un massacre, qui est sur le point d'être réédité, qui a été réédité chez Matago Nouvel Angle. Hein, et il s'est ensuite fait le chroniqueur, hein, des récits du vieux monde. Alors, il y a un recueil de nouvelles qui s'appelle Janua Vera, et puis un roman, Gagner la guerre, un tous deux publié chez Moutons électriques, et très remarqué par les amateurs, un prix imaginal pour Gagner la guerre. Et alors, dans le vieux royaume, il y a toutes sortes de pays, il y a toutes sortes de créatures, et notamment, on y croise des elfes qui retiennent le regard vagabond du voyageur, hein, l'île inaccessible d'Avalonnée, ou qui, de temps en temps, visitent les mortels et les quittent, hein, en leur laissant dans le cœur un vide, hein, sans fin. C'est la très très belle nouvelle, hein, le comte de Suzel, hein, qui est une poignante biographie comme ça en quelques pages d'une femme, hein, qu'on suit de son enfance à sa mort, qui à un moment a rencontré un elfe, et c'est très beau. Et c'est cet elfe, on le retrouve dans Gagner la guerre. Voilà, donc des elfes assez différents les uns des autres dans ces différentes œuvres des auteurs qui m'entourent. Peut-être d'abord une question pour les spécialistes, hein, que sont à la fois Édouard Brazet et Hélène Kushner, parce que c'est quand même une grande connaisseuse aussi du folklore. Vous avez animé une émission de radio sur la musique. La musique folklorique, c'est ça ?
Non, c'est pas seulement la musique folklorique. Alors, c'est la musique du monde entier. On a J.S. Bach, aussi que les tambours d'Afrique. Alors, c'est
d'accord,
pas seulement,
ouais, c'est world folklorique. Music. D'accord.
Non, mais c'est aussi de la musique classique, la musique moderne. C'est tout ce qui exprime l'âme humaine.
D'accord, alors, la spiritualité,
oui,
dans
mais
la
moi,
musique.
Je mets, oui, c'est comme ça. Mais moi aussi, ça m'intéressait dès que j'avais 12 ans, 15 ans, la folklore. Alors, je l'aime bien, mais je le mets dans le radio quand je peux, mais pas toujours.
Donc, si vous pouvez préciser d'abord pour le public exactement ce qu'on entend par ce terme elfe, puisqu'on sait que ce n'est pas la même chose en langue française et en langue anglaise. Les elfes que visite Thomas sont des fairies, et donc, hein, pas forcément ce qu'on entend comme elfe dans la langue française. Hein, donc, petite définition.
En fait, c'est vrai qu'on connaît beaucoup les elfes par ce qu'on a fait Tolkien, qui est une vision très personnelle de l'auteur. Mais l'origine des elfes, à ma connaissance, c'est une origine plutôt scandinave et germanique. Et en fait, c'est l'origine. En fait, les elfes sont à l'origine du monde tel qu'il a été créé par les dieux, par Odin et les dieux d'Asgard, à partir du cadavre du géant du givre, Ymir. Comme vous le savez, ce géant était, ainsi que la race des géants des givres, était précédé, donc, les dieux dans les neuf mondes. Et en fait, il a été entièrement dépecé par morceaux par Odin et les autres dieux. Et par exemple, sa voûte crânienne, c'est devenu la voûte céleste. Sa barbe, ce sont devenus les forêts, les futaies, son sang, ce sont devenus la mer et les fleuves, etc. Et sur les restes du corps en décomposition du géant Ymir, qui a donc donné lieu au monde, c'est par son corps que le monde existe tel qu'il est, eh bien, il y avait des petits vers qui sont apparus, des petits vers de putréfaction. Et ces vers, certains ont regardé vers le ciel, ils ont vu les dieux As, qui étaient depuis le Valhalla, qui se penchaient sur leur balcon pour regarder le corps d'Ymir. Et donc, ces elfes, ces vers ont vu le visage des dieux, et ils se sont transformés en elfes de lumière parce qu'ils ont eu la projection, en quelque sorte, le reflet divin. Les autres, au contraire, sont restés à l'intérieur du cadavre du géant. Donc, ils n'ont pas vu les As, les dieux, et ils sont devenus les elfes sombres, les elfes des ténèbres. Bon, c'est une des versions que l'on donne de l'origine des elfes. En tout cas, c'est resté dans la tradition germanique, c'est-à-dire que les elfes sont tantôt des elfes de lumière, plutôt bénéfiques, on va dire des sortes de sylphes, de fées masculins, et puis les autres sont des elfes noirs, des elfes ténébreux. Ils sont assimilés à ce moment-là aux nains, aux gnomes, aux êtres souterrains, et ce sont en ce sens-là des gardiens de la mort.
Hélène Kochner, vos elfes sont plutôt au-dessus des notions de moralité, ils sont c'est la tradition celtique des elfes.
Absolument celtique, mais je pense aussi partout, c'est quelque chose qui exprime l'imagination humaine. Selon des elfes, c'est que toujours ils n'ont pas de moralité, comme c'est bien compris avec nous. Quand même, mon amie Delia Sherman, tu es là, Delia, a écrit de très jolis petits romans pour les enfants, en pensant peut-être, vous connaissez ici le nom de Asperger, ce syndrome.
Le syndrome d'Asperger, oui, c'est une forme d'autisme léger.
Oui, c'est ça. Que c'est peut-être aussi que les enfants qui avaient de l'Asperger toujours, ou bien de l'autisme, c'est comme des elfes, c'est une explication pour des gens qui étaient très, très obsessifs. Ils devaient compter toujours toutes choses qu'ils rencontraient. Mmh. Ça aussi, c'est une qualité des elfes. C'est-à-dire, vous connaissez le mot de changeling, on a en France folklore.
Les changelings
sont en effet des gens autistiques qui apparaissaient et qui étaient un peu comme les elfes. Ils comptaient beaucoup de choses. Ils ne comprenaient pas tout à fait la moralité ni des gens non plus. Alors, il y a certaines qualités qu'on donne aux elfes et aux personnages folkloriques qui sont, je crois, assez partout, même si ce sont des dwarfs ou quoi, qui ne sont pas humains, enfin.
D'accord. Et vous êtes vraiment appuyé sur une tradition folklorique ou vous avez eu l'impression de réinventer les personnages des féeriques hein?
Non, pour Thomas le Rimeur, c'était absolument la tradition folklorique du frontière entre l'Écosse et l'Angleterre. Il y a une culture même de cet endroit qui est ni écossais, absolument, ni anglaise, absolument. C'est la culture de la frontière entre les deux. Il y a bien des chansons, on dirait des ballades de ça, qui nous donnent un exemple très clair de la culture et des croyances folkloriques selon les elfes. Alors, si on lit ou bien écoute tellement de ces ballades et on lit un peu les histoires, les petits contes aussi, c'est très, très clair. Et c'est ça absolument que j'ai prêté pour mon roman.
Et ce sont donc vraiment les elfes plutôt clair hein, que vous décriviez, c'est-à-dire des elfes, des émanations de la nature. Hein, ils sont du côté du vert. Ils ont dans un autre temps, dans un autre régime de temporalité. Ça passe pas pareil pour eux.
Une précision justement
sur les mortels.
Ouais, ouais. Une précision sur ces elfes celtiques à ce moment-là, c'est le fait que, comme dans Thomas le Rimeur, ils ont un temps différent de celui des humains. C'est-à-dire que Thomas reste 7 années au service d'amour de la reine des elfes, mais ces 7 années ne durent que 7 jours ou 7 minutes, selon les versions. Toujours est-il que ça dure beaucoup moins longtemps et qu'il ne voit pas le temps passer. Et à peine est-il arrivé, une des légendes de Thomas le Rimeur qui dit qu'il est entraîné dans la salle de bal donc par la reine des elfes. Et donc il danse le branle écossais et à peine a-t-il dansé quelques danses avec les gentilshommes et les gentilsdames que la reine des elfes lui dit il faut partir car les 7 années sont révolues. Mais quoi, nous venons d'arriver, mais non, 7 ans, le temps passe différemment chez les elfes et chez les humains. Donc il y a cette maîtrise du temps qui est différente. Il y a aussi une question d'habitat, c'est-à-dire que les elfes, on les représente souvent avec des petites ailes, donc on les assimile un peu à des fées, on les voit volter dans les forêts, donc ça serait plutôt des êtres aériens, célestes. Or, dans la tradition des Tuatha Dé Danann, en Irlande, ce sont des êtres qui viendraient de Thulé ou d'îles du nord de l'Europe, donc des êtres plutôt féeriques, plutôt angéliques, plutôt elfiques. Mais lorsque les Gaëls, les fils de Gaëls, donc les futurs Celtes, ont envahi l'île d'Irlande, il y a eu de grandes batailles, puis des négociations, puis des alliances et des pactes, à l'issue desquels les Tuatha Dé Danann, donc les elfes d'Irlande, ont creusé leur royaume souterrain avec de grands palais, alors que les Celtes étaient sur la surface de la terre. Donc en fait, ce sont devenus des êtres souterrains, un peu comme les elfes ténébreux, mais sauf que c'était des rois avec des grands. Et puis il y a des histoires extrêmement belles d'amour entre justement des elfes souterrains, des Tuatha Dé Danann, et des mortels, des reines mortelles, avec des enlèvements, avec des guerres, avec des choses qu'on connaît assez mal ici en France, mais qui sont très belles, qui donneraient lieu à des sagas fantastiques. Voilà.
Bah, on l'attend. Et alors, Tolkien a repris ça, cette histoire de l'amour hein, entre elfes et mortels. C'est quelque chose d'assez porteur, d'assez poignant. C'est donc ce que Jean-Philippe Jaworski, vos elfes sont assez tolkieniens d'apparence, d'inspiration. Est-ce que c'est de lui que vient le côté sylvestre de...
Alors, ils ne sont pas seulement sylvestres chez moi, même si je ne les ai pas énormément développés. Oui, il y a une inspiration de Tolkien qui est très nette chez moi. Mais en même temps, j'ai bien en tête tous les modèles mythologiques dont on vient de parler. Et j'ai voulu effacer chez les elfes l'orientation judéo-chrétienne que leur avait donnée Tolkien. Puisque pour Tolkien, l'elfe, c'est l'homme d'avant la chute. C'est-à-dire l'homme parfait, l'homme immortel, celui qui n'a pas encore déchu. Et donc il a fait une relecture qui est vraiment une relecture chrétienne d'un mythe qui à l'origine est un mythe païen. Donc oui, j'ai repris la séduction qui est présente chez Tolkien, mais à côté de ça, j'ai voulu leur donner des petits caractères plus ou moins païens. Et en fait, j'ai voulu reprendre... à ma façon très modeste, hein, le modèle syncrétique qu'on peut observer dans différentes littératures, en particulier dans la littérature médiévale, où on va voir se mélanger des influences qui sont aussi bien des influences celtiques et germaniques. Alors, chez Tolkien, c'est net, parce que le mot elfe, effectivement, et Tolkien le revendique, ça vient des mythologies germaniques, mais en même temps, les langues qu'il va créer, qui sont quand même à l'origine de sa conception des elfes, sont des langues qui lui sont inspirées par la fascination qu'il a éprouvée pour le gallois. Or, le gallois, c'est une langue celtique, et c'est même, finalement, la langue qui est issu directement du gaulois. À travers les mythes gallois, on a des mythes qui sont souvent un peu flottants, mais on voit apparaître des personnages de l'outre-monde qu'on peut assimiler aux fées ou aux elfes. Hein. Alors, j'avais en tête ces modèles-là, et par exemple, l'elfe qui apparaît dans le conte de Suzel, Annoet Vedoc, alors je le prononce à la française, je ne parviens pas à le prononcer à la galloise. Son nom, je ne l'ai pas créé, c'est un nom gallois. C'est un nom qui apparaît dans Cuillir Olwen, un conte gallois qui est consacré, en fait, c'est un conte gallois relativement primitif consacré à Arthur. Et on a une évocation de tous les gens qui sont présents à la cour d'Arthur. C'est une très longue liste qui dure sur des pages et des pages. Et dedans apparaît Annoet Vedoc, dont le nom signifie en gallois le sot insolent.
S-O-T ou
le sot S-O-T, oui, d'accord. L'imbécile, le sot insolent. Et moi, ce qui me plaisait, c'était justement d'accoler le caractère extrêmement séduisant des elfes qui leur est donné à la fois par la tradition et par Tolkien, et puis ce nom qui renvoie aux origines historiques d'une des inspirations des elfes, et puis qui renvoie aussi à cette immoralité, à cette bêtise parfois de l'elfe qui là va oublier, alors pour la question de temporalité qu'on évoquait, qui va oublier pendant la durée d'une vie la promesse qu'il avait faite à une petite fille.
Alors l'elfe, à partir de Tolkien, est devenu une espèce d'icône de la fantaisie, un de ses représentants les mieux connus, un incontournable des personnages de jeux de rôle, etc. Alors vous Raphaël Albert, d'où sort votre elfe qui donc se retrouve transplantée dans un cadre urbain et dans une profession, alors que justement ce Sylvo-Sylvain, il pourrait difficilement être plus sylvestre. Qu'est-ce qu'il fait là? Comment il est arrivé là? Et d'où vient-il au juste?
Mes elfes, ils ne viennent pas du tout de Tolkien. Malgré tout l'amour que je lui porte, je trouve ces elfes foncièrement ridicules. ces espèces de grands elfes blonds ou bruns, au choix, avec des lumières angéliques, etc. etc. C'est bon. J'aime Tolkien énormément, mais ça, ces elfes-là, c'est vrai qu'ils... Bon. Donc moi, je me suis plutôt inspiré d'un autre auteur américain qui n'a jamais écrit de roman, qui s'appelle Greg Stafford, et qui a écrit un monde de jeux de rôle qui s'appelle Gloranta. Et dans ce monde de Gloranta, les elfes sont... des émanations humanoïdes du végétal. C'est la forêt qui a fait pousser, enfin c'est des croisements entre la rune de la plante et la rune de l'homme qui donne des plantes humanoïdes. Donc c'est vraiment des êtres qui sont non pas éthérés, aériens ou je sais pas quoi, mais particulièrement terrestres, particulièrement ils sont vraiment du monde, ils en sont partie prenante comme nous tous. Ils sont juste extrêmement différents des hommes sur plein de points, par la longévité, par toute la psychologie, parce que le fait d'être une plante qui vit au même rythme que le reste de la forêt, en fait, ça change un peu tout, quoi. Voilà, c'est plutôt ça, moi, mon...
Et physiquement, il a aussi la peau...
Alors, bien sûr, ils ont des os en bois, ils ont de la sève à la place du sang, et de nombreux elfes ont des feuilles qui poussent sur la tête à la place des cheveux, ce genre de choses. Voilà, ça, c'est l'elfe que moi, j'aime particulièrement.
Et qui a, là, en l'occurrence, quitté
son monde. Ouais, c'est un déraciné. Il a été chassé. Enfin, il s'est enfui suite à une histoire que j'ai pas encore écrite.
Ah bon? On va pas spoiler.
C'est en cours.
Voilà. Non, mais c'est effectivement, on apprend dans le cours du premier volume qu'il a dû. Qu'il est en bisbille.
Il a commis un crime qui est impardonnable dans sa forêt, donc il a préféré prendre la poudre d'escampette et il a abouti à Paname, parce que c'est là qu'aboutissent peu ou prou tous ceux qui n'ont plus rien dans ce royaume. Voilà.
Alors, est-ce que c'est difficile de faire quelque chose de neuf avec un tel personnage, ou est-ce que précisément c'est pas le but? Est-ce que justement quand on décide d'écrire un roman sur les elfes ou sur les féeries, c'est parce qu'on a envie de s'inscrire dans une tradition ou dans des codes, dans des conventions? Voilà, c'est une volonté de renouvellement ou une volonté d'hommage?
Ce sont les deux ensemble, moi je crois. Bien. Car on va se lier avec des choses assez anciennes, assez bien connues, assez bien aimées par des générations de gens. Mais le roman, c'est quelque chose de très, très moderne. Et quand on fait un roman, même si un roman de fantasy, bien de fantasy épique, comme on dirait, ça, c'est ça, pas moi que j'écris, c'est ça, mais quand même, c'est quelque chose de très moderne où il y a des, on dirait, motivations, des motivations humaines là-dedans. Alors, on fait un mariage de traditions, car quand vous entendez les contes, les contes de fées, quoi, mais avant du 17e, mais les vrais contes de tradition, il n'y a pas beaucoup de psychologie. Et maintenant, quand on lit un livre moderne, un roman, bien, il faut absolument du psychologie. Il faut expliquer pourquoi les gens font ça ou ça. Alors, les elfes, ils sont un peu incompréhensibles. Et on dit alors, ils n'ont pas les moralités. Mais s'il y a des caractères humains ou des elfes un peu plus modernes, il faut bien qu'on peut comprendre pourquoi ils font ça. Mais quand le folklore, quand les balades, ce n'est jamais, jamais expliqué. Alors c'est pour ça que peut-être une chimère de genre.
Un mélange chimérique de plusieurs genres. Oui, puisque le roman d'Hélène, effectivement, consiste à raconter autour d'une... à entrer dans la tête des différents protagonistes d'une... d'un ensemble de ballades beaucoup plus
anciennes. Ils sont tous humains.
Anciennes. Oui, ouais, les points de vue sont humains.
Eux-mêmes, ils ne comprennent pas les elfes.
Oui. Jean-Philippe, c'était une volonté de retravailler ce code, parce que c'est une des choses qui a été le plus débattue à propos de gagner la guerre. Oui. C'était, mais pourquoi mettre des elfes?
Alors, déjà, je suis d'accord avec Hélène. Ça procède des deux volontés, de la volonté de respecter une tradition et en même temps de réinventer quelque chose après. C'est un petit peu le principe de la contrainte libératoire.
Et puis de la fantaisie.
Et de la fantaisie, oui. Je développe un petit peu là-dessus, puis après je vais revenir sur... C'est vrai que qu'est-ce qu'on m'a reproché, ces deux elfes qui font irruption au milieu de gagner la guerre, au milieu d'une histoire de corrompus, de pourris, et plus ou moins italianisants. Et hop, il y a deux elfes qui arrivent au milieu de tout ça.
C'est la mafia vénitienne.
Et en plus, ces deux elfes-là, ils n'ont a priori strictement rien à faire des conflits politiques, etc. Et eux, ils sont là pour s'amuser. Hein. Alors, j'y reviendrai sur l'irruption des deux elfes au milieu de cette histoire. Moi, ce qui m'intéresse, oui, justement, au niveau aussi de la psychologie. Ce sur quoi j'ai commencé à travailler sans être très explicite dessus dans Janua Vera et dans Gagner la guerre, et ce sur quoi je compte continuer à travailler, c'est effectivement se poser la question de la motivation des elfes, de leur société, sachant qu'ils ne sont pas moraux au sens où on l'entend, qui n'ont pas exactement notre conception du bien et du mal. Donc je me suis demandé, mais finalement, selon quel système fonctionne leur société, car ils ont une société. J'ai essayé de poser un certain nombre de postulats qui sont fondés sur leur appréciation différente du temps. Un être humain, en fait, lui, il cherche à gagner du temps, parce que sa vie est courte et qu'il a beaucoup de choses à faire en peu de temps. Et l'elfe, lui, il est dans une position complètement inverse. Comme sa vie est d'une durée indéfinie, l'elfe va chercher à passer du temps. Et à partir de ce postulat-là, je construis une mentalité qui permettrait éventuellement de comprendre pourquoi la perception qu'ils ont du bien et du mal n'est pas du tout la nôtre. Parce qu'eux, en fait, vont chercher à passer le temps en vivant en harmonie avec ce qu'ils voient du monde, soit dans la folie, soit dans la sagesse. Mais en tout cas, ils ne vont pas chercher à bien faire ou à mal faire, parce que si on fait une erreur, on a tout le temps pour la réparer. Si on fait quelque chose de bien, une fois qu'on l'a fait, finalement, on a terminé quelque chose, comment est-ce qu'on va s'occuper après? Donc à partir de ce moment-là, on passe le temps, en faisant aux yeux des humains un peu tout et n'importe quoi. Alors j'essaie de construire quelque chose là-dessus. Et c'est ça qui est excitant, justement, à partir d'un schéma qu'on n'invente pas, qui existe déjà, d'essayer de rebâtir quelque chose de neuf. Peut-être. Et pour ce qui est de gagner la guerre, pourquoi deux elfes? Pour donner un peu de fraîcheur dans le roman, parce que c'est un roman abominable, dont je déconseille la lecture. Même s'ils ne sont pas très moraux, les deux elfes, quand même, ils sont nettement plus fréquentables que tous les autres qui sont d'abominables raclures. Il s'agissait aussi de donner une respiration dans le roman qui correspondait à une période d'exil pour le personnage principal. Donc, un exil qui correspond aussi à une inspiration historique, puisque en fait, mon personnage principal il est à l'image de bon nombre d'exilés florentins de la Renaissance. Et il s'agissait de le plonger dans une société, dans une atmosphère qui était complètement différente de la société dont il avait dû fuir. Alors là, les elfes s'imposaient, d'autant plus que les elfes de gagner la guerre forment aussi en quelque sorte l'essence d'un esprit médiéval, alors que le narrateur, lui, est plutôt représentatif d'un esprit Renaissance, puisqu'ils animent en fait une compagnie folle, donc une compagnie où on s'amuse beaucoup, et cette compagnie folle, elle est calquée sur le modèle des grandes compagnies festives du Moyen-Âge. Dans cette compagnie, par exemple, le deuxième elfe, Eirin Main d'Argent, a le titre de grand-duc des Sacripants, ou de grands prévôts des étourdis, qui sont en fait des titres qui étaient donnés dans les compagnies folles médiévales. Donc il représentait un esprit festif médiéval, sachant que les elfes au Moyen-Âge aussi, c'était la fête. On parlait de mythologie scandinave. Il faut savoir quand même qu'avant que la Scandinavie ne soit christianisée, au solstice d'hiver, on fêtait les elfes. Et on les fêtait dans une fête qui était abominablement païenne. Je ne sais pas si je peux en donner la description, l'alpha blotte.
Les orgies.
On a une adorable petite elfe, mais elle est actuellement cachée.
Alors il faut se boucher les oreilles. Hein. Au cours de l'alpha blotte, qui était une fête de la, donc qui était une vraie fête, on buvait beaucoup. Il s'agissait de faire en sorte que le soleil revienne. Il s'agissait de faire en sorte que la fécondité revienne. Et donc on sacrifiait un étalon. On lui tranchait son pénis. Et pendant la fête, on se passait de main en main le pénis de l'étalon. Donc, ce caractère festif et presque orgiaque, j'ai voulu le transcrire à travers les elfes de gagner la guerre. Donc, on passe d'une société renaissance à une société médiévale, et les deux elfes sont là pour symboliser tout le caractère festif et débridé de la société médiévale, même s'il n'y a pas de sacrifice d'étalon et de tout ce qui s'ensuit dans gagner la guerre.
Donc, le contraste est voulu.
Ah oui, tout à fait.
Voilà.
Oui, oui.
Et alors, Raphaël Albert, vous avez vraiment mis l'elfe dans un décor inédit et dans un rôle inédit, hein, celui du détective fauché, désabusé, qui nous vient d'une autre tradition générique. Donc là, c'était vraiment pour le plaisir du mélange des genres, pour,
ouais, exactement,
pour faire quelque chose de nouveau avec le personnage.
Bah, quelque chose de nouveau, je ne sais pas, mais l'idée, c'était de mixer les codes du polar et les codes de la fantasy, donc prendre un elfe et en faire le détective privé qu'on a tous lu ou vu avec son lot d'alcool dans le sang et de débauche et tout ça. Bon, c'était plutôt marrant en fait. Hein. L'idée c'était de mélanger les deux genres, mélanger les codes pour faire un mélange plus ou moins inédit.
Dans un ça, le contexte rappelle un peu l'Ambremer. Hein.
Ouais, j'ai lu ça quelque part.
De Pierre Peuvel,
mais
l'intrigue policière est effectivement inédite dans ce contexte-là. c'est effectivement, il y a du renouvellement de l'elfe. Alors, je pense pas que ce soit le cas chez Raphaël Albert, même si on va sans doute finir par découvrir des tas de choses sur Silvo. Mais est-ce que pour vous, en tout cas chez Hélène, chez Jean-Philippe et de ce qu'en dit Édouard, l'elfe est une espèce de vecteur pour réfléchir à ce qui est, pour, selon Tolkien toujours, hein, la grande question de la fantasy, qui est le rapport entre les mortels et l'éternité, et le monde éternel qui les entoure, le rapport entre mortalité et immortalité, comment font les mortels face à ce qui les dépasse, et les elfes sont une...
Non, je
une
crois
manière
que
de
non.
dire ça.
Non, je crois qu'ils si, existent dans une. On parle dans ce joli, joli conte de Thomas le Rimeur, le traditionnel. La reine des elfes lui montre trois routes différentes, n'est-ce pas? Bon, et voilà. C'est
Donc, I can't do this in French. I think I have a little
help. Help.
But I would like very much to tell this story. Okay.
Don't worry.
So. She says she shows Thomas three different roads before he leaves the true earth.
Donc elle montre à Thomas trois voies différentes avant qu'il quitte la terre.
And one is thick and beset with thorns and briars.
Donc l'une est finalement épaisse et avec des ronces.
Right. And that is the road to righteousness, though after it but few inquire.
Donc c'est la route vers la droiture, mais c'est une route que peu empruntent.
Et en fait, c'est la route du ciel, des cieux.
C'est la route des cieux.
Oui. Alors. Et l'autre, c'est le broad across the lily leaven. And so there's a I can't try to remember the whole ballad. Can you help me? It's Do you know this well enough? Vous le connaissez bien?
I don't know in English so well.
Chanter, je... Ok, mais... Anyway, there's another one that's different somehow, and...
Ok, il y en a une deuxième?
Non, c'est la route de l'enfer. La route de l'enfer, ça c'est très très joli, cette route.
Et très large.
Très large, elle descend en pente douce, enfin bon...
Et la troisième qui est seulement belle et montre que les choses belles, ça c'est la route pour aller à la terre elfique. La terre elfique, on dit ça.
La terreur, non,
non. La féerie, c'est la
féerie. Bon. Alors, c'est-à-dire qu'il y a les choses de l'enfer, les choses des cieux, et la troisième, c'est la route.
Oui, vers le monde merveilleux.
La féerie, oui.
Ça veut dire que c'est quelque chose peut-être de l'imagination qui n'est ni evil ni bon.
Oui, ni mauvais ni bon.
Et c'est l'immortalité, tout ça, ça appartient aux anges, au bon Dieu, à la religion. Mais ça aussi, je suis d'accord avec vous que c'est quelque chose de nature, surtout de nature.
Alors, en même temps, on peut en faire une autre lecture puisque... dans les pays germaniques, arrête-moi si je me trompe, mais on a aussi essayé de christianiser, d'expliquer la présence des elfes et d'un certain nombre de créatures mythologiques en disant qu'en fait il s'agissait d'anges neutres. C'est-à-dire qu'au moment où Lucifer s'est révolté contre Dieu, certains des anges ont pris le côté de Satan et se sont rebellés contre Dieu, ils ont été précipités en enfer. Certains des anges ont pris le côté de Dieu, se sont restés des anges, et il y en a qui n'ont pas pris position. Les anges neutres.
Les Suisses.
Voilà. Et ceux-là, quand Dieu l'a emporté, Dieu les a projetés sur terre, donc il ne les a pas punis comme les anges noirs, mais il les a transformés en créatures féeriques. Alors ça, c'est une relecture de l'Église pour essayer d'expliquer la survivance du paganisme, parce qu'en fait, les fées, en particulier les elfes, sont des survivances du paganisme, et pour essayer de concilier, puisque pendant des siècles, dans les campagnes, on continuait à laisser du lait à tous les petits esprits locaux. Donc on continuait, en fait, à avoir des pratiques païennes. Il fallait bien que le curé, lui, tout en essayant de lutter contre ses pratiques, il trouve une explication au fait qu'il y avait toujours des fées, il y avait toujours des elfes.
En même temps, les elfes, comme toutes les créatures de féerie, ils ne sont pas mortels comme nous, ils ont une durée de vie beaucoup plus longue, mais ils ne sont pas non plus immortels. C'est-à-dire qu'ils ont, comme tu disais, ils ont une durée de vie indéterminée. Donc en fait, ils ne meurent pas vraiment non plus, ils disparaissent soudain coup, on ne sait pas pourquoi. Et on ne sait pas quand. Et eux-mêmes ne le savent pas pourquoi. Donc c'est vrai que ça ne leur donne pas du tout le même enjeu que le nôtre. C'est-à-dire que nous savons, enfin vous savez que vous êtes mortels. Moi, je ne suis pas sûr. Et donc le temps est compté, comme tu disais. Et en plus, on ne sait pas non plus quand. Ce qui n'est pas juste d'ailleurs. Parce que normalement, dans les règles du jeu, à partir du moment où nous savons que nous sommes mortels, nous devrions savoir à quel moment nous allons mourir, de façon à mieux gérer notre vie. Et là, effectivement, on ne donne pas les règles du jeu. Donc, il y a quelque chose qui est un petit peu biaisé. Si on est immortel, on a vraiment tout le temps, mais on a trop de temps, justement, et on s'ennuie beaucoup, surtout vers la fin, comme disait Woody Allen. Et lorsqu'on ne sait pas, alors, effectivement, tout d'un coup, voilà, un coup de tonnerre, et puis, ça y est, c'est terminé. Voilà. Alors, c'est ça qui est intéressant aussi dans le monde de féerie. Alors, ce que disait Paracels aussi, pas spécialement sur les elfes, mais sur les autres êtres, je dirais, de l'outre-monde, c'est qu'en fait, ils sont dépourvus de l'âme immortelle qui fait la particularité des mortels. Et que, notamment pour ce qui concerne les salamandres, les naïades, les nymphes, etc., ou les fées, le meilleur moyen, ou les elfes aussi, de fait, le seul moyen, en fait, de gagner cette âme immortelle, c'est de convoler avec un mortel qui, lui, a une âme immortelle. Il faut suivre. Et donc, avec l'alliance avec la fée ou avec l'elfe, l'alliance charnelle, amoureuse et sacrée par les liens du mariage, à ce moment-là, l'être de féerie devient, en quelque sorte, s'humanise et détient une âme immortelle, à condition, bien sûr, que son partenaire mortel lui reste fidèle. Ce qui est là, c'est rarement le cas parce que les hommes sont infidèles par nature. Et à ce moment, la lettre de l'outre-monde, non seulement perd effectivement ce qui lui était promis par cette alliance, mais se venge évidemment du mortel d'une façon extrêmement cruelle. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les mêmes relations au monde, et ce qui est très important pour nous ne l'est pas du tout pour eux, et ce qui pour nous, ce sont des détails sans importance, sont pour eux des serments ou des pactes extrêmement importants et qu'il faut à tout prix respecter. Donc c'est vrai qu'on ne parle pas du tout le même langage.
Et c'est un des très beaux répertoires de la fantasy que ces histoires d'amour entre mortels et immortels. On va quand même garder un petit peu de temps pour que le public puisse poser ses questions, s'il y en a. Comment ? Non, exprime-toi.
Non, je disais, si vous avez sans doute des millions de questions à nous poser, donc c'est le moment.
Non, mais tu vas voir, parce que tout à l'heure, je n'avais pas laissé de temps pour les questions du public, et après, il y a des gens qui sont venus me poser leurs questions après, donc profitez-en.
Ils sont un peu timides.
Ouais.
Et qu'est-ce que vous pensez des elfes qui sont issus des hommes, c'est-à-dire qui étaient des hommes ou qui ont été créés par les hommes dans le cadre des récits,
Comme exemple, vous avez quoi C'est les gens qui font du grandeur nature là, qui font des.
J'ai pas d'exemple particulier, mais est-ce que ce serait envisageable en fait un humain qui deviendrait un elfe, ou est-ce que vous avez déjà rencontré ça dans la littérature?
C'est pas tout à fait la même chose, mais Oberon, on pourrait dire peut-être Oberon qui justement était à ma connaissance, hein, oui. Mais en même temps, il peut pas grandir.
Donc, a priori, moi je me fonde sur Huon de Bordeaux.
Oui.
Je sais pas si on a les mêmes références, puisque tu penses peut-être à Shakespeare.
Oui, c'est vrai que donc c'est un demi-elfe, oui. Mais il passe, c'est-à-dire qu'il est dans ce monde-ci, puis il passe dans l'autre monde où il devient souverain.
Alors, pour moi, Huon de Bordeaux, d'après Huon de Bordeaux, Oberon, c'est le fils de Jules César et de la fée Morgane.
Ah ouais.
Ouais.
Donc, et en plus, c'est un nain.
Ensuite, il devient roi de féerie.
Il est petit, il devient roi de féerie.
De Titania.
Oui. Donc, c'est un demi-elfe, a priori, même si c'est un nain, en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là, puisque c'est un nain, en fait, hein, Oberon, hein, ouais, qui est effectivement l'époux de Titania, d'une fée qui est superbe. Hein. Mm. Donc, encore un mariage bien apparié. Et bon, moi, ce que je trouve intéressant, là, c'est qu'on voit la connexion que tu évoquais tout à l'heure, c'est la connexion entre l'elfe et le nain. Oui. Presque plus qu'entre l'elfe et l'humain.
C'est vrai, oui.
Oui, oui, que dans le jeu de rôle a fait deux opposés classiques, mais qui sont en fait des créatures assez apparentées au départ. Et je ne sais pas mais j'ai l'impression que c'est deux races, enfin deux types de créatures qui sont assez étanches, enfin voilà, qui ne peuvent pas tellement... ça produit des... Alors peut-être qu'à force de croisements entre... entre elfes et mortels, il va finir par se produire une race vraiment mêlée. Mais passer de l'un à l'autre, ça peut être une intéressante, un vrai défi diégétique, un vrai défi d'auteur.
En tout cas, c'est vrai qu'il y a aussi des récits médiévaux, mais là aussi qui appartiennent à la littérature inquisitoriale. C'est-à-dire que les elfes sont assimilés aux incubes. Et les relations, justement, charnelles entre mortels et elfes sont assimilés à des relations avec des démons incubes qui justement apparaissent la nuit et qui non ils sont très beaux justement, c'est ça le problème, c'est que si c'était comme ça, ouais, les gens d'âme se méfieraient, mais non, ils sont excessivement sexy et bien qu'impalpables, presque virtuels, mais
cas,
tout de même
dans ce cas à ce sujet il y aurait peut-être Merlin justement.
Pardon.
Il y aurait peut-être Merlin qui est né de ce type d'union.
Alors oui, c'est ça. Oui, oui, parce qu'on dit que Merlin était le fils du diable. Évidemment, comme le diable n'existe pas, il ne peut pas être le fils de quelque chose qui n'existe pas. Donc, il est forcément le fils d'un elfe ou d'un incube. Mais l'incube serait à l'elfe ce que... Oula, ça devient compliqué.
Et aussi pour un romancier moderne, c'est une métaphore pour être le fils ou la fille d'une elfe et d'un humain. C'est une métaphore de peut-être tous qui sont ici ensemble. C'est quelqu'un qui ne se sent pas absolument ni l'un ni l'autre, qui ne se sent pas absolument chez soi dans le monde quotidien. Alors c'était très très, il y a beaucoup de pouvoir dans ce concept.
Ou du métissage.
Métissage.
Oui.
C'est quoi?
Le métissage, c'est
les... Ah oui. Ah bon. Oui. Oui, c'est ça exactement. Mais c'est quelque chose de l'âme, de l'essence qu'on ne se sent pas absolument du monde. Et il y a beaucoup de gens, surtout les ados, qui se sentent comme ça.
Et les amateurs de fantasy. Des nains qui seraient donc plus proches des hommes ou... Attends, je sais pas comment.
Oui, c'est assez particulier. En fait, il est acté.
C'est Olé, a priori.
Je sais plus, je crois qu'ils sont.
À l'origine, effectivement.
Ils étaient nés avant.
Les nains sont des espèces de golems. Dans le Silmarillion, Olé est jaloux de la création des premiers-nés. Il crée, et effectivement, oui, il les crée auparavant.
Mais oui. Oui, et en fait, il les réveille
oui.
A posteriori. Enfin, bon, c'est compliqué. Hein, tout ça.
Et, mais avec l'autorisation d'Iluvatar, donc le grand dieu, oui.
Bah, c'est qu'en fait, les mêmes créatures, on peut avoir des noms très différents selon les traditions, selon les auteurs. Donc, il faut voir ce qu'ils mettent derrière le mot. Et les traditions anglophones mélangent sous le nom de féerie, d'être fée, beaucoup de créatures merveilleuses très, très différentes qui ensuite ont toutes leur particularité.
Et puis, nain, ça ne veut pas dire nain. C'est-à-dire que le nain, ce n'est pas une question de taille. Puisque, par exemple, c'est vrai qu'il y a des ethnies de nains qui descendent des géants. Et en fait, voilà, les géants et les nains sont en fait d'une origine souvent commune. Donc, il y a aussi des petits
minérales.
Nains, mais il y a des grands nains. Et voilà, nains, ça ne veut pas dire... Et même dans l'origine de dwarfs, ça ne veut pas... Voilà, je crois que c'est plus en allemand... C'est Claude Lecouteux qui en parle dans ses bouquins, mais je crois que ça veut dire plutôt contrefait, pas simplement par le corps, mais un peu biaiseux, quelqu'un qui est malin, qui est roué, c'est plutôt ça la définition du nain, c'est pas une question de taille. Alors, et les elfes, si on dit qu'ils sont des nains, c'est parce qu'ils vivent sous terre, et effectivement, sous terre, il y a moins de place que sur terre, et donc ils rapetissent. Il y a aussi le fait qu'ils rapetissent dans les croyances. Hein, ça, c'est le cas des fées. Pourquoi les fées ont disparu? C'est parce qu'elles sont devenues tellement petites. Et pourquoi sont-elles devenues petites? Parce qu'on n'y croit plus. Comme disait Mathieu Barry dans Peter Pan, chaque fois qu'un enfant dit « je ne crois pas aux fées », il y a une petite fée qui tombe morte. Voilà, donc chaque fois qu'on parle des fées en disant « si, si, elles existent, elles sont belles, les douces dames, les bonnes, etc. Bon, » ben, elles reprennent un petit peu de poids et puis elles commencent à apparaître et puis à grandir.
Elles ont beaucoup varié en taille également. Voilà, je pense que vous avez totalement perdu toute idée préconçue sur ce à quoi peuvent ressembler n'importe quelle race de fantasy. Et vous voyez que c'est très riche, en fait, hein, ces corpus. Hein. Est-ce qu'il y a une dernière question?
Bonjour.
Bonjour.
Donc moi, je souhaiterais savoir si effectivement les personnes qui sont ici présentes et qui ont écrit des livres, des romans,
c'est toi.
Question.
Moi, personnellement, non.
Tous les matins, en me rasant.
C'est vrai, c'est pas vrai. C'est pas totalement improbable.
Et il est interdit de dire « je ne crois pas en Raphaël Albert, vous serez gentil ».
Pas d'autres expériences à partager, apparemment.
Non, pour répondre sincèrement, je suis désolé, mais jamais. Ça me fait beaucoup de peine, par contre. Je pense pas que ce soit la question, mais je pense que c'est parce que je sais pas où regarder, en fait.
Mais, ah bah voilà, ouais.
Je vais dire que j'habite à New York et il y a parfois à New York, c'est une ville extrêmement extrême. Et j'ai bien vu des gens à New York qui pourraient peut-être être des elfes urbains, en effet.
Non, puis dans des festivals comme ici, on a, on croise des, voilà. On croise quelques créatures elfiques et voilà, c'est toujours agréable.
C'est pas impossible, surtout à New York
et aux Imaginales. Merci beaucoup.
Merci.